Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
Voilà chaque. لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني.
Abbiamo pensato che non fosse opportuno far cadere il governo Monti.
I am really happy to be here. Happy to be reunited at long last with the White House press corps.
Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ma femme, elle est députée. Et cadet n'est pas mon neveu.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les voix de Yasser Arafat, Silvio Berlusconi, Bill Clinton et Laurent Gbagbo, ce sont quelques-uns des chefs d'État que notre invité Vincent Herouet a pu rencontrer et interviewer sur LCI. Bonsoir Vincent, bienvenue. Vous classez ces présidents par famille, les furieux, les facétieux, les guerriers, les héritiers, les beaux gosses. J'en passe des meilleurs, on verra où vous situez les présidents français tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais pour commencer que vous racontiez une anecdote sur Yasser Arafat. On commémore aujourd'hui le 10e anniversaire de sa mort. Un soir, vous devez l'interviewer au crayon, c'est ça, dans ce palace parisien.
C'est quand il était venu pour la première fois à Paris, à l'invitation de François Mitterrand à l'époque. Mais en réalité, Arafat, c'est une interview dont je me souviens parce que c'est un ratage. J'ai raté 3 fois Arafat dans ma vie. J'ai raté en 82 parce que j'étais un jeune reporter et j'étais à Beyrouth pendant l'opération Paix en Galilée. C'est la première fois qu'il y avait le siège d'une ville moderne par une armée moderne depuis Saïgon. Et ça a duré donc tout l'été. Et Arafat était traqué quand même par les Israéliens qui voulaient en finir. Et ils ont bombardé un immeuble aux arts et métiers où il devait se trouver. C'est la première fois qu'on utilisait une vacuum bomb. L'immeuble entier est tombé et Arafat venait juste de sortir. Donc il était très difficile de l'avoir. Et à l'époque, je collais à un homme qui était un Palestinien très influent dans le premier cercle d'Arafat et qui était facile à reconnaître dans le hall de l'hôtel du Commodore où il venait tous les soirs. C'est qu'il avait le visage qui était grêlé de poudre, parce que le Mossad lui avait envoyé un colis piégé et il avait perdu quelques phalanges des deux mains. Et aussi le visage était marqué par cette espèce d'acné, et il me promettait toujours de rencontrer Arafat. Et donc deux fois je l'ai accompagné pour rencontrer le Raïs, pour rencontrer le chef palestinien, et les deux fois ça tournait court. Alors c'était un jeu de dans un dédale, et puis c'est Beyrouth qui était en guerre, donc la ville était vraiment...
Et au crayon à Paris, alors?
Et alors, quand il revient au crayon, évidemment, je reviens pour obtenir enfin gain de cause.
Tenez votre promesse.
Et donc, je vais voir cet homme avec une amie, c'était le soir très tard, comme beaucoup de chefs d'État d'ailleurs, Arafat est un noctambule. Il y a 10 jours, moi j'ai fait l'interview de Macky Sall, et on l'a entendu toute la journée, et on a fait l'interview à 1h du matin.
Macky Sall, c'est le président du Sénégal.
Bon. Et Arafat dormait très tard le matin, et recevait, parce que lui, il dormait, alors que les autres dorment peu, lui dormait, mais il a été un peu décalé, il avait vraiment une vie d'un homme qui s'est longtemps caché. Et donc on arrive au crayon, le conseiller est dans sa chambre, déjeuner avec son room service, puis il nous accompagne au bout de longues palabres, et on arrive, et Arafat est dans son canapé, il regardait un dessin animé, il aimait beaucoup les dessins animés, il a fait bonjour.
Comme ça,
et
de
puis,
loin.
On se verra demain, Boukra.
Oh non.
Mais demain c'est pas un rendez-vous. Demain, oui, c'est un jour.
Et
un
donc,
jour.
Ça a été encore une autre tentative après, encore un dessin animé, je crois, et
ça
a
ramalé.
En fait,
le jour où Jacques Chirac a fait cette extraordinaire promenade dans la vieille ville. I take my plane and go back to Paris.
Oui.
Et Arafat,
aussi anglophile que vous,
oui,
mon cher Thomas.
Merci beaucoup de rappeler que j'ai un accent parfait. Oui, ça, c'est cette scène dont on se souvient avec la sécurité.
Oui, qui a duré un temps fou, qui a duré des heures. Ce qu'on voit pas à la télé, c'est que ils se sont marchés sur les pieds pendant des heures avec le Shin Bet.
Et donc, ce jour-là aussi, vous
espérez.
Et ce jour-là aussi, vous espérez l'interviewer, Arafat.
Là, on va avec Chirac à Ramallah. Il touche les deniers de cette espèce de querelle qu'il a eue publique avec, les hommes de la sécurité israélienne, et il est évidemment acclamé, apparition sur la scène du docteur Chirac, et Arafat est là, et on fait une ovation, les Palestiniens font une ovation au docteur Chirac, qui est le nouveau héros du Moyen-Orient, du Proche-Orient. C'est la grande politique arabe de la France qui soudain est ressuscitée, et Arafat après l'avoir reçu en audience, est de nouveau affalé dans son canapé alors qu'on avait un vague rendez-vous. Là, il regarde des dessins animés japonais. Et on s'est dit que c'était en fait comme avec le coyote, que jamais on ne l'attraperait et qu'on ne le plumerait pas cette fois-là encore.
Vincent Herouet, vous classez ces chefs d'État que vous avez rencontrés tout au long de votre carrière par catégorie. Yasser Arafat, il est dans les facétieux, c'est ça?
Ah, je sais.
Vous savez,
la colle,
c'est
la colle.
Eh bien, il est dans les facétieux. Tout comme Silvio Berlusconi, d'ailleurs, que vous rencontrez. Quel show il vous fait, Silvio Berlusconi?
Ah, ben, Silvio Berlusconi, c'était un peu à la fin. C'est-à-dire que là, il recevait, mais il était flanqué d'un espèce de, d'un gars qui avait un visage absolument impassible, qui était habillé tout en noir et qui regardait les journalistes qui étaient reçus. Et,
vous le surnommez le pion, ce
oui,
personnage.
Oui, c'est ça. Il était là pour pincer, en fait, Berlusconi dès que celui-ci se mettait à déraper. Il était là pour l'arrêter, pour le stopper, pour l'empêcher de dire des grivoiseries.
Il l'a fait devant vous, il a pincé.
Ah oui, plusieurs fois. Et alors, il y avait Berlusconi qui prenait à témoin ses hôtes en disant, mais regardez, il n'arrête pas de me couper, je suis en garde à vue, je suis en résidence surveillée. Il se plaignait.
C'était à quelle époque, ça, Vincent Herouet? C'est à l'époque où déjà ses affaires de mœurs commençaient à le pousser à la
ah
sortie.
Oui, bien sûr, il a toujours été. La colle, l'année. Quelle année? Il était président du Conseil, évidemment. Mmh. L'Italie allait prendre la présidence du Conseil européen. C'est dans le deuxième, à la fin des années 90.
Vous avez même noté un détail, Vincent Herouet, lors de cette interview. Il avait les mains maquillées. Il était soigneux à ce point-là.
Oui. Il est presque aussi teint les cheveux que François Hollande. Il a la peau presque aussi tirée que l'avait Ronald Reagan. Et il est maquillé des doigts de pied jusqu'à la racine des cheveux.
Le pouvoir d'anation de ce monde, c'est ce que vous écrivez dans cette galerie de portraits de 100 chefs d'État. D'autres rencontres dans un instant. Angela Merkel, Mikhail Gorbatchev, c'est pas trop mal l'accent là. Ou évidemment Nicolas Sarkozy. On vous donne rendez-vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
Der von Deutschland entfesselte Krieg und die Verbrechen des Nationalsozialismus waren die Ursache für Millionen von Toten.
С учетом того, что президент Путин пользуется реальным авторитетом в России.
J'aime trop mon pays pour que vous soyez condamnés à cela. Ce n'est pas possible.
Saldırgan bir devletin düşmanlık dilemeden ve hesap vermeden.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et la dernière voix que l'on vient d'entendre est plus difficile à reconnaître, c'est celle de Recep Erdogan, le premier ministre turc. Il y avait aussi évidemment Angela Merkel, Gorbatchev, Sarkozy. Ils sont tous passés à la question de notre invité Vincent Herouet, journaliste à LCI, la chaîne d'info du groupe TF1. Alors racontez-nous cette interview de Nicolas Sarkozy. Pourquoi elle est intéressante? Parce que c'était à l'Élysée, une grande émission de télé, c'est ça?
Non, parce que c'était en 2008, si je me souviens bien. C'était une interview qui était dans un plan média de l'Élysée importante avec France 2 et TF1 et puis les présentateurs des deux chaînes, David Pujadas et Patrick Poivre d'Arvor, plus trois spécialistes, un sur le social, un sur les questions de société, c'était Yves Calvi, et moi-même sur la politique étrangère. Donc on était beaucoup trop nombreux. C'est une émission qui n'a pas laissé un souvenir éblouissant, mais ce qui m'a énormément frappé, c'est de voir l'importance que lui accordaient mes confrères. C'est-à-dire qu'une semaine à l'avance, ils ont commencé à s'exciter autour de ce grand rendez-vous, comme on en a eu un la semaine dernière avec François Hollande. Et c'était extraordinaire parce qu'il y a toutes sortes de présidents dans le monde. Mais vraiment, au cœur des Français, il n'y a qu'un président de la République, comme il n'y a qu'une reine d'Angleterre. Il n'y a qu'un président, il vit à l'Élysée, qui est la demeure des dieux. Et depuis le général de Gaulle, sa plaque minéralogique, c'est 1PR75. Bref, c'est un type absolument hors du commun. Est-ce qu'il fait est hors du commun? Les autres présidents, ils ont droit à un petit protocole, ils ont droit à un peu d'attention quand l'actualité devient tragique, mais ce sont en quelque sorte des ersatz, ce sont presque des usurpateurs.
Ouais. Et donc vous n'étiez pas si impressionné que ça, si j'ai bien compris.
Et non, mais on est de plus en plus impressionné quand tout le monde est impressionné autour de vous, quand vous voyez l'état-major de la chaîne s'interroger sur les détails du dispositif, quand vous voyez tout le personnel de l'Élysée qui est réduit. Le réalisateur avait une formule absolument extraordinaire. Il parlait de décor humain. C'est-à-dire qu'on les avait mis sur des gradins dans la salle des fêtes, l'espèce de bonbonnière, là, rose. On avait mis, donc, les huissiers, les secrétaires, les chauffeurs. C'est une caserne, l'Élysée, donc le personnel est très docile, il se rebelle peu, c'est lui le véritable propriétaire des lieux, il regarde passer les présidents avec leur entourage, surtout les conseillers, comme en sachant que c'est pas eux le véritable maître. Mais ils sont dociles, donc c'est pas le genre à se mutiner, et ils étaient assis sagement sur leur gradin, et tout le monde attachait une importance considérable à ce moment de vérité qui forcément était décevant. Notamment pour moi, parce que la politique étrangère, évidemment, ça passe en dernier. C'est pourtant l'essentiel de l'activité, normalement, du locataire du Faubourg Saint-Honoré. Mais bon,
et en off, Nicolas Sarkozy, il se comporte comment avec vous ?
Après.
Les journalistes.
Ah, bon, avec les journalistes, bon, moi, je ne vais rien vous apprendre, je ne vais rien révéler que vous ne connaissiez déjà. Il était très direct avec les cons. Il a toujours été très, très tactile. Il vous prend par le bras, il vous secoue. Et il devait être déçu par l'émission parce que finalement, le dispositif est tellement lourd que ça avait assourdi, il n'y avait pas d'agressivité. C'était pas possible. À 5, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop dans la cohue, vous jouez trop des coudes pour arriver à véritablement pousser votre avantage. Or, il fait partie de ces gens, quand les interviews, qui ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux qui répondent et qui soient plutôt dans l'affrontement. Il est d'un naturel finalement assez belliqueux. En tout cas, sa nature se révèle quand il a quelqu'un en face de lui. Il a besoin d'un adversaire, d'un interlocuteur qui sait le coincer. Il est meilleur dans ces cas-là que quand il a un édredon. Et voilà. Bon.
Vous rencontrez aussi Vincent Hérouette. Angela Merkel, vous la surnommez le chancelier aux trois fromages.
Mais ce qui est intéressant, Merkel, parce que c'est une femme qui comme ça quand on la regarde, nous, elle est pas du tout charismatique. On a commencé à comprendre quand même qu'elle dominait un peu l'Europe. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de condescendance du côté français quand on parlait d'Angela Merkel et beaucoup de moqueries pour ses vestes trois boutons qui la faisaient ressembler à Casimir. Vous êtes trop jeune pour savoir qui est Casimir.
Non, bien sûr que j'ai regardé Casimir. Ce grand bonhomme un peu fort jaune.
Le temps de l'île aux enfants. Voilà, c'est le moment chanson.
Alors c'est vous qui l'a comparé à Casimir, Vincent Hérouette ?
Non, c'est pas moi, c'est l'entourage du président de la République.
Et le chancelier aux trois fromages, c'est pas beaucoup plus sympa.
Alors, elle aime beaucoup le fromage. Elle est un peu gourmande. Elle mange les sandwichs de ses bodyguards, en règle générale.
Elle
ne fait pas d'excès de table, mais en revanche, elle a une faiblesse extrêmement coupable pour le fromage. Et Nicolas Sarkozy se faisait une joie de lui offrir de vrais plateaux de fromage. Et un jour d'ailleurs...
Alors que lui fait très attention à sa
vie. Elle est très gourmande, ce qui est curieux pour un chancelier, parce qu'à ce niveau, en général, responsabilité, ils sont quand même extrêmement soucieux de leur alimentation, et sans aller au menu nos gluten, auquel est, paraît-il, abonné le Premier ministre, Valls, ils sont quand même très soucieux de ce qu'ils avalent. Et Angela Merkel, elle a cette faiblesse et la France, d'une manière assez sournoise, dans le couple franco-allemand, eh bien, Nicolas Sarkozy aimait bien
lui tendre le plateau de fromage.
L'alourdir un peu.
Vincent Hérouette, vous racontez 100 interviews de chefs d'État dans votre livre « Ainsi va le monde ». On va parler de Mikhail Gorbatchev. Vous l'avez rencontré en Suisse. Alors c'est drôle parce qu'il est toujours aussi populaire en Occident et pas vraiment en Russie.
Gorbatchev finira par l'être.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
pourquoi ?
Parce qu'il ressemblera à une icône, il finira comme c'est un peu une relique d'ailleurs. Il est un peu son propre veuf. C'est un type étonnant en fait, parce que il est sorti de l'histoire. Il n'est pas simplement le personnage des publicités Vuitton. Il n'est pas simplement l'homme le plus quêté, le plus détesté de l'Union soviétique. Mais c'est vrai qu'il vit dans une autre planète. Moi, quand je l'ai rencontré en Suisse, ce qui m'avait frappé, c'est que il n'avait plus rien à dire en réalité. Il réécrivait, c'est 10 ans après la chute du mur, et il réécrivait l'histoire. C'était un disque sans fin. Et le truc qui m'avait frappé, c'est que je l'avais maquillé moi-même. Ça arrive souvent, finalement, en reportage ou en voyage, on maquille soi-même.
Vous avez toujours la petite trousse de maquillage, Vincent?
Oui, ne vous moquez pas. Ça fait partie des contraintes du métier.
Et alors, qu'est-ce que vous découvrez en le maquillant?
Qu'il a une cicatrice derrière l'oreille. Et donc, il a sans doute fait de la chirurgie esthétique, ce qui n'est rien d'étonnant. Et comme il a une cicatrice, je me disais, mais comment ça avait été bien fait? Et je me suis demandé, mais qui lui a fait ça? Qui l'a opéré ainsi? Turquie l'a lifté. Et je me disais, mais ça devait être autant l'Union soviétique. Opérer le premier secrétaire, fallait pas le rater. Et donc,
sinon, goulag,
le chirurgien devait être beaucoup plus tendu que moi-même, qui avait hésité à lui passer la pommade. En général, je passe rarement la pommade, mais qui avait évité de le poudrer sur sa tâche. J'avais peur de lui faire mal, ce qui est idiot. Mmh.
Et les évidemment. Français, alors, Chirac, Jospin, Hollande, on vous raconte leur manie dans un instant. Et puis la folie aussi des dictateurs, Kadhafi, Saddam Hussein, ou le président du Kazakhstan qui avait la main un peu baladeuse.
Coucou, me revoilà.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et ce soir, dans la curiosité, on vous fait découvrir les manies des chefs d'État avec Vincent Herouet, le chef du service étranger de la chaîne LCI. Vincent Herouet, on va raconter maintenant l'histoire de quelques dictateurs que vous avez interviewés. Donc Kadhafi, pour commencer, vous le rencontrez quand, Kadhafi ?
On le rencontre quelques mois avant sa mort, quand la guerre est déjà bien entamée, et qu'il est dans son palais, dans ses palais, il est retranché, et il comprend, il est à l'instant où il comprend que ça a vrillé, ça y est, que son sort est scellé, et qu'il n'arrivera pas, de toute façon, quoi qu'il fasse, il n'arrivera pas à désarmer l'hostilité, la machine de guerre qui est en train de se masser au large et qui est déterminée à lui faire lâcher prise. Donc il est dans un moment assez particulier. On vient pour faire l'interview. Évidemment, on attend à Tripoli, claque-muret à l'hôtel. Et puis les jours passent. Et puis on dit qu'on s'en va. Et à ce moment-là, Kadhafi, on nous dit qu'il faut rentrer tout de suite à l'hôtel. Et Kadhafi débarque 12 heures après, tous les journalistes ayant été enfermés dans l'hôtel. Il débarque avec sa suite complètement délirante.
C'est déjà un spectacle en soi. Ça ressemble à quoi? Décrivez-nous, Vincent Herouet.
Ah bah, il arrive, c'est-à-dire que comme les journalistes avaient passé 12 heures enfermés dans l'hôtel avec les gardes qui les empêchaient de sortir, même dans le patio, ils avaient la bave aux lèvres. Donc il arrive au milieu d'une cohorte de types en armes qui bousculent tout le monde. Et Kadhafi, finalement, ne remarquait rien. Il a la tête en l'air, il a le chèche de travers. Ça se bouscule autour de lui. Il passe comme une diapositive. Il passe serein en regardant vers l'avenir. Et puis quand il s'assoit, quand on le présente à lui dans une espèce de pièce qui était fermée, où il y avait la télé libyenne avait entassé toutes sortes de caméras. Et les gens étaient dans une tension inouïe. Quand on se présente à lui, il a une poignée de main de très douce, de rombière. Il a la peau très douce. Il a le visage ravagé d'un type qui s'est beaucoup drogué, mais qui vit la nuit. Donc, on s'attend à ce qu'il fleure le formol. En fait, non. Il est parfumé au vétiver. Et puis, il est très honoré. Ce que je lui dis, je voulais vous interviewer, vous et Castro. Ça manquait au tableau de chasse. Alors, il me dit oui. Il est content. Il s'assoit. Et puis là, il commence à dire n'importe quoi. Mais le pire.
Mais il répond aux questions ou il dit
oui,
ce qu'il veut.
Il répond aux questions. Et puis de temps en temps, il perd prise, il se met en colère parce que le traducteur raconte n'importe quoi. Le traducteur réécrit les questions, réécrit les réponses. Il parle de Kadhafi âgé continu. Et c'est un type absolument pas fiable. Mmh. Et Kadhafi s'énerve par moments. Et puis se reprend en se disant il faut. Bon, bref, c'est une histoire, c'est un délirant. Il rend fou tous les gens autour de lui et lui-même est vraiment un personnage.
C'est un comédien ?
Oui, c'est un bon comédien. Aussi, c'est un type intelligent. C'était un type intelligent.
Mmh. Et vous sentez la peur dans le regard des gens qui l'accompagnent ?
Mais ce qui est frappant dans le tyran, ce qui est frappant quand on fait des interviews de président, c'est qu'on fréquente les entourages. Et on remarque autour des dictateurs, finalement, prospèrent pas mal de médiocres et des gens interlopes. On a les interviews de ces gens, des chefs d'État, en fricotant, en essayant de rentrer en contact avec des gens qui sont assez improbables. Il y a des mythomanes, il y a des escrocs, il y a des agents d'influence, il y a toutes sortes de gens qui essaient de se rendre utiles. Et autour de Kadhafi, il y avait tous les chefs des services de renseignement qui rivalisaient entre eux, qui avaient le genre à Rouflaquette des années 70, vous savez, ouais. Personnage de Lozier, et tous se tenaient en respect, et tous étaient morts de peur.
Mmh. Encore un dictateur, le président kazakh Nursultan Nazarbayev, très riche, très courtisé lors d'une visite à Paris. Alors c'est pourquoi ? Parce qu'il a, c'est un pays qui a beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pétrolières.
Oui, c'est le père de la nation, Nursultan Nazarbayev. Mmh. Il a sa main qui est imprimée sur les billets de banque. Quand il mourra, on l'enterrera dans un coffre-fort, j'imagine. Mmh. C'est un homme immensément riche dans un pays qui était misérable. Il règne depuis l'indépendance, depuis que le pays s'est affranchi de l'Union soviétique. Et il est, évidemment, il suscite la convoitise de tout le CAC 40 et de tous les industriels de la défense. Et
donc ce jour-là, y a tous ces grands patrons qui
Il y avait Christian de Margerie qui faisait l'aboyeur, qui animait la table, paix à son âme, et magnifiquement d'ailleurs. Mais bon, il y avait une rivalité de flagornerie autour de Nour Sultan qui acceptait les hommages comme ça, et puis qui s'est barré en plein milieu du déjeuner, du dîner. Il est parti, et les gardes du corps que j'ai croisés le lendemain m'ont raconté qu'il était allé à la deuxième, au deuxième show des filles du Crazy Horse.
C'est pour ça que vous dites qu'il a la main baladeuse. C'est le titre que vous lui avez donné. Allez, on termine très vite avec... en fait, Saddam Hussein, vous n'avez pas pu l'interviewer, c'est
jamais,
ça ?
Jamais. Il restera le tyran magnifique. Non, non, j'ai, comme tout le monde, je l'ai raté. Non, j'ai interviewé Tariq Aziz plusieurs fois.
Qui était son ministre des Affaires étrangères.
J'étais à Bagdad en espérant effectivement avoir Saddam, et je ne l'ai pas eu. Mais bon.
Et vous dites que tous ces hommes et femmes, finalement, ils ont un masque. Ils portent un masque d'une certaine façon. Est-ce que... Une fois, vous avez réussi à un tout petit peu le soulever, ce masque.
Ah oui, souvent. Oui. Ah oui, souvent. Il y a des moments. C'est quand l'histoire est au rendez-vous. Quand Gbagbo va tomber et qu'il est enfermé dans son bunker. Quand le gars finit de l'interview et qu'il a passé l'oral et qu'il a vraiment vécu ça comme une violence intrusive et qu'il s'abandonne en sortant. Il y a des tas de moments. Quand l'histoire est au rendez-vous, quand la tension a été très forte pour l'interview, après, vous avez vraiment des moments de vérité et vous découvrez les hommes et vous découvrez qu'ils vivent dans la frénésie. Ils vivent dans la passion, ce sont des survivants et ce sont des types intéressants.
Merci beaucoup Vincent Herouet, votre livre « Ainsi va le monde », passionnante galerie de portraits, est publié chez Albin Michel. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie.
Merci à vous.
Bonsoir Thomas, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez, je vous rappelle, la podcaster sur le site rtl.fr.
Vous écoutez RTL.